Chapitre 10. Le forum. Le forum était bruissant de foule. À l'ombre des colonnes, les hauts citoyens se saluaient, prenaient place dans les loges réservées à leur guilde, bavardaient. L'arrivée du représentant de la guilde du pouvoir à la tribune, qui était baignée d'une lumière nacrée, fit taire les assistants, tandis que les retardataires s'installaient en s'excusant silencieusement. Mevel, une femme d'une cinquantaine d'années, sans beauté mais pleine de prestance, se tenait aux côtés de Stèle. Ils adressèrent un discret signe de tête à Aymeric, à la loge de la médecine, et à Aumont, à celle du savoir. « Chers concitoyens, commença le délégué au pouvoir, la séance du forum portera aujourd'hui sur un problème relativement délicat. Notre communauté souffre depuis quelque temps d'une baisse alarmante de la fécondité. Comme vous le savez sans doute, nombreuses sont les hautes citoyennes qui donnent aujourd'hui naissance à des enfants anormaux, dont le potentiel intellectuel est très limité, tandis que d'autres ne parviennent tout simplement pas à procréer. La guilde du pouvoir soumet donc à votre réflexion l'ensemble du problème. Nous appelons d'abord à la tribune un membre de la guilde de la médecine pour nous éclairer sur les sources de ce fléau. Puis nous vous laisserons débattre et plaider sur deux axes. Faut-il, et comment faut-il, apporter un sang nouveau à notre cité? Quelle attitude devons-nous adopter envers ces enfants anormaux, en nombre croissant, qui risquent à terme de compromettre notre équilibre? Un murmure parcourut le forum tandis que le délégué au pouvoir quittait la tribune et s'installait au pupitre des minutes, d'où il prendrait en note toutes les interventions. Ces notes remonteraient ensuite à la guilde du pouvoir qui prendrait la décision finale. Un mouvement un peu plus important parcourut la loge de la médecine. Un doyen, finalement, se dirigea vers la tribune. « Point n'est besoin, je crois, d'utiliser le verbe, car nous ne plaidons pas ici, mais constatons. Qui d'entre nous n'a pas dans sa famille, chez ses voisins, connu ce douloureux échec, de voir une branche saine et magnifique porter des fruits gâtés, ou rester désespérément stérile? La proportion de naissances normales est certes encore de 8/10, mais qu'en sera-t-il demain, lorsqu'on sait que la tendance s'aggrave régulièrement depuis plus de 10 ans? La prévention s'avère, je le regrette, totalement inefficace. Quelle est la cause? Me demande le délégué au pouvoir. Quelle est la cause? En qualité de médecin, je ne peux que me tourner vers cette source permanente de dégénérescence dans le monde naturel, qu'est l'excès de consanguinité. Notre institution est telle que malgré la liberté de choix des étudiants de la haute école, beaucoup d'entre eux finiront par fonder une famille au sein de la guilde où ils ont été élevés. J'en suis le premier exemple, d'ailleurs. D'une famille de médecins, j'ai élevé 5 enfants dont 3 sont à présent dans ma guilde, ce qui prouve que le résultat n'est pas toujours si terrible. Il y eut quelques rires amusés. Quoi qu'il en soit, reprit le doyen plus sérieusement, l'endogamie très poussée de notre société me semble être la raison principale de ce phénomène. En ce qui concerne nos rejetons dégénérés, je demande pardon aux nobles familles concernées d'employer ce terme un peu cru, il faut savoir qu'ils ne peuvent en aucun cas, en aucune façon servir les guildes. En nombre restreint, ces individus peuvent subsister par la protection de leur famille, mais ils se révèlent incapables d'assimiler nos règles sociales, notre langage complexe, et sont également hermétiques au verbe. J'entends par là qu'ils ne peuvent pas en user, ni, ce qui est plus gênant, parfois en subir la contrainte, et que la barbarie de leur comportement met parfois notre ordre social en péril. Je vous demande donc de réfléchir aussi très consciencieusement à cet aspect du problème. Mais comme tous les doyens de toutes les guildes, voici que je me mets à monopoliser la parole. Chers concitoyens, il est l'heure de plaider. » Son départ fut salué par les traditionnels sifflets. Ces petits objets, plus apparentés d'ailleurs à des flûtes, permettaient de rendre 3 sons, du plus aigu au plus grave. L'assentiment se manifestait par une note grave, la désapprobation par une note aiguë. On entendit peu de notes aiguës lors du départ du doyen, dont les paroles neutres et consensuelles, s'ayant à son âge, ne faisaient que poser les données du problème. Un jeune homme de la guilde du commerce demanda la parole et se dirigea vers la tribune, étincelant dans sa toge jaune. « Exposez votre argument, » dit le délégué au pouvoir. « Je suggère que nous favorisions le mariage entre guildes, » dit-il d'une voix forte. Un bref murmure s'éleva puis retomba. « Allez-y, plaidez, » dit le délégué au pouvoir. Le jeune homme aux cheveux lustrés à la manière des commerçants fit briller d'une belle lumière verte sa pierre frontale. Dans la lutte toujours féconde qui oppose ces deux géantes que sont la tradition et l'innovation, nous autres mortels retenons notre souffle et n'osons nous prononcer en faveur de l'une ou de l'autre. car ces deux forces surhumaines accouchent tour à tour de bienfaits et de maux, d'étincelles parfois créatrices et parfois incendiaires. La tradition nous berce à son sein maternel, nous rassure et nous lie entre ses bras puissants. L'innovation nous trace les chemins de la gloire, de la richesse et de la puissance, parfois aussi nous fourvoie dans des leurres et nous aveugle de ses mirages. Dans le cas qui nous préoccupe cependant, la tradition nous sert de trop près, et dans sa volonté de tisser entre nous des liens toujours plus solides, étouffe le ventre de nos femmes. C'est donc vers l'innovation que nous devons résolument nous tourner, en osant imaginer une étreinte plus lâche, mais non moins riche. Un simple changement du livre des lois pourrait faire revenir dans son lit le fleuve de notre sang malade de tourner sur lui-même. Conseillons à nos étudiants de choisir une guilde différente de celle de leurs parents, d'épouser une personne étrangère à sa guilde, et notre santé refleurira bientôt. Nos familles accoucheront de fruits nouveaux, fruits de l'échange, enfants de l'ouverture, qui perpétueront notre flamme d'un éclat renouvelé. La pierre frontale s'éteignit, marquant la fin de la plaidoirie, et les sifflets retentirent, beaucoup plus mitigés que lors de l'introduction du doyen. Le jeune homme sourit et s'écarta, laissant la place au chancelier de la haute école. Exposez votre argument. Il est néfaste d'influencer de quelque manière que ce soit le choix de leur guilde par les étudiants. Plaider. Je serai bref et parlerai sans le soutien du verbe. Aucune mesure ne justifie que l'on s'attaquât à ce droit sacré, à ce fondement premier de notre liberté, qu'est le libre choix de sa guilde. Je m'oppose fermement à l'idée que l'on puisse interdire aux étudiants la guilde de leurs parents si leurs désirs et leurs aptitudes les y poussent. Cela serait contraire à l'esprit même de notre cité. Le tonnerre de notes graves raccompagna le chancelier impassible jusqu'à la loge des savants. Puis, Emmerich prit la parole. Exposez votre argument. L'exogamie à envisager n'est pas au niveau d'une autre guilde, mais au niveau d'une autre cité. Plaider. Comme monsieur le chancelier et le doyen avant lui, je parlerai sans plaider. L'ouverture du mariage entre guildes serait probablement au niveau médical de peu de poids, car nous sommes tous apparentés depuis des générations. S'il faut vraiment considérer la solution d'une exogamie, il faut aller jusqu'au bout de cet examen. Seul l'apport d'un sang vraiment totalement neuf serait de nature à régler le problème. Il faut faire venir des enfants ou des adultes d'ailleurs, sous peine de laisser le problème irrésolu. Un grand silence s'ensuivit. Que préconisez-vous? S'enquit le chancelier. Moi? Dit Emmerich. Rien, je ne fais que recentrer le débat. Une femme de la guilde de l'industrie en toge ocre prit la suite. Exposez votre argument. Il est contraire à l'esprit de la cité d'ouvrir nos murs à des étrangers adultes. Plaidez. La pierre frontale de la femme tremblota quelque peu avant de diffuser une agréable lumière rose. C'est de tout mon corps et de tout mon esprit que je me révulse à l'idée d'accueillir ici, en nos murs chéris, la souillure d'un barbare. Car les étrangers apportent avec eux le souffle corrompu de leur cité perverse, où l'ordre est chaque jour bafoué, où la beauté gît piétinée par des âmes brutales. Aucune haute citoyenne n'acceptera l'humiliation de s'offrir au désir mutilant d'un humain qui n'est pas grandi dans notre cité. Aucun haut citoyen n'irait fourvoyer sa semence dans le ventre inconnu d'une étrangère, et surtout ne lui confierait l'éducation de son précieux enfant. Plutôt mourir lentement de notre magnifique consanguinité que de tolérer la présence en notre enceinte d'individus qui jureraient sournoisement notre perte. Les sifflets, à dominante grave, furent interrompus presque aussitôt par le tribun suivant. Un petit homme replet, qui portait la toge gris-perle de la guilde des urbanistes, monta à la tribune. « Exposez votre argument. » L'échange des nouveau-nés dégénérés contre des nouveau-nés sains de la ville basse représenterait une solution économique aux deux problèmes qui nous occupent. Plaidez. La lumière jaune de la pierre frontale s'alluma instantanément, comme celle d'un homme très à l'aise avec l'esprit. La cité d'Albâtre n'est pas enfermée dans les limites du canal frontière. Depuis que nos ancêtres ont élevé les premiers palais, la cité d'Albâtre a toujours été double, faite comme toute chose sur terre, d'un endroit et d'un envers, d'une force brute et d'un esprit, d'une mine et d'une industrie. La ville basse, dont certains d'entre nous répugnent à mentionner l'existence, est, au-dessous de nous, notre assise et notre fondement. Sans ces travailleurs, nous n'aurions pas d'oisiveté. Sans sa crasse, nous n'aurions pas de beauté. Elle nous fait vivre comme nous la faisons vivre. Elle contribue à ériger la gloire de la haute ville qui rejaillit sur elle. Ses enfants sont nos enfants, des enfants d'Albâtre avant tout, et au sortir de la matrice, nul ne pourrait les discerner de nos propres enfants. Imaginez, mes chers concitoyens, le sublime réservoir de sang neuf qui coule à nos pieds. En donnant à des enfants sains toutes les merveilles de notre civilisation, ne seraient-ils pas très semblables à nous? Et nos rejetons dégénérés, qui dépérissent à l'ombre de nos palais, ne seraient-ils pas plus heureux dans l'épanouissement d'un travail manuel? Chacun ne serait-il pas remis à sa juste place dans le grand équilibre de la cité? Je vous demande d'y réfléchir, mes chers concitoyens. Je vous demande même d'y rêver, car le sang neuf appelé par les médecins nous est offert dans une coupe d'argent. Maintenant, demain, nos jeunes accouchées pourront rentrer chez elles, le sourire aux lèvres, avec à leur sein un nouveau-né plein de promesses et qui tétera avec leur lait toute la noblesse de la haute ville. » D'un air souverainement satisfait, l'urbaniste se tut et savoura les réactions très vives et majoritairement positives qui suivirent sa prestation. Ce fut le moment que choisit Emmerich pour quitter le forum, mais le doyen l'intercepta avec un sourire de connivence. « Bravo, Emmerich, votre intervention a suscité tout ce que nous espérions. Vous avez entendu les sifflets? La mesure sera adoptée sans la moindre opposition. » Emmerich, écœuré au plus profond de lui-même, parvint malgré tout à simuler un air ravi. « C'est une solution si simple et si efficace, » dit-il. « Mais oui, c'est celle qui s'impose à tous les esprits de bon sens. Mais je craignais un peu la tournure des événements lorsqu'on a parlé de mariage entre guildes. Votre intervention a été salutaire. » Emmerich se mordit la lèvre et prit congé en souriant. Il savait qu'Aumont, Mével et sa jeune recrue allaient le rejoindre, mais ne prit pas le risque de regarder dans leur direction. Moins d'une heure plus tard, une cinquantaine de personnes étaient réunies sous le toit de la libérale Mével, hôtesse coutumière de nombreux divertissements. Le vin, le miel et les amandes, les fleurs en sirop et les gâteaux au fromage étaient disposés en abondance, des luttes mises à la disposition des hôtes furent bientôt utilisées. De l'extérieur, on surprenait les parfums et les bruits d'une fête hédoniste, alors que l'agitation qui régnait en ce lieu était d'une toute autre nature. Aumont écoutait Emmerich pérorer d'une oreille distraite. Il se laissait aller à exprimer toute l'horreur que lui inspirait le procédé débattu au forum. Tout le monde ici partageait son indignation, commentant sans fin les propos cyniques, extrémistes ou stupides qu'ils avaient entendus en plaidoirie. Et c'était justement ce qui gênait Aumont. Les réunions de la société ne faisaient que permettre à ses membres de parler, de vider leurs sacs, comme on disait en ville basse, mais il n'était jamais question d'action. Lorsque les convives échauffés eurent tous pris la parole, rassérénés par leur commun accord, Mével fit teinter le cristal de son verre pour attirer l'attention. « Certains d'entre vous connaissent déjà Stel, récemment introduit parmi nous. Stel est toujours en contact avec la jeune Elénor, dont vous n'aurez pas oublié l'apostasie fracassante. » Nous nous demandions si notre société n'aurait pas intérêt à nouer quelques liens avec les apostats de Villebasse, afin d'échanger informations et points de vue, et de réfléchir à un rassemblement plus vaste de notre courant réformateur. Aumont ne put s'empêcher de sourire. « Je suis heureux de vous entendre parler d'un courant réformateur, Mével, dit-il. Notre vocation est d'abord celle de faire changer les choses. » Mével sourit, de toute la sereine majesté de son statut d'hôtesse. « Aumont trouve que nous parlons trop, » dit-elle en riant, et plusieurs personnes l'imitèrent. « Je suis tout à fait favorable pour ma part à un élargissement de notre champ de réflexion et d'action, » dit Aumont. « Il est vrai que nous tournons en rond, » ajouta une femme de la Guilde du Savoir. « Les apostats ne sont peut-être pas les interlocuteurs les plus intéressants, » dit un jeune homme de l'industrie. « Ne serait-il pas plus profitable pour nous d'entrer en contact avec les spiritualistes ?» Cette suggestion souleva un murmure important. « Les spiritualistes vivent reclus dans leur monastère, » dit Emmerich, « et ils méprisent la haute ville sans distinction d'opinion. Pour eux, nous ne sommes que des hommes sans foi et sans éthique. Ils nous dénient même la légitimité de faire usage de l'esprit. Ils ne voudront jamais nous parler. »« N'est-ce pas précisément pour une question d'éthique, » demanda une jeune femme, « que nous sommes réunis en société? Ne sommes-nous pas tous d'accord pour nous opposer à ce qu'ils dénoncent ?»« Personne ne connaît exactement la position actuelle des spiritualistes, » observa Aumont. Les conjectures me paraissent vaines. De toute façon, il nous est impossible de nous rendre sur place, dit un autre. Justement, dit Mével, voilà le genre de service que pourraient nous rendre les apostats. Ils sont libres de leur mouvement et pourraient nous servir d'intermédiaires. Dans quel but? Demanda abruptement Emmerich. Dans le but d'exister en tant qu'opposition, s'enflamma Aumont, dont la pierre frontale bleu nuit se mit à luire singulièrement. « À quoi croyez-vous servir, avec vos luttes et vos fleurs au sirop, votre bonne conscience et votre inutile clandestinité? Allez-vous empêcher les basses citoyennes de se faire arracher le fruit de leurs entrailles et de récolter à la place les monstres qui sortent de notre propre sclérose? Allez-vous, en parlant prudemment et à voix basse, faire entendre la voix de ces êtres humains que nous exploitons comme du bétail ? Il faut faire face, Emmerich, il faut constituer une force réelle. Nous sommes 50 contre 10 000, nous sommes des orateurs contre des guerriers, nous sommes une minorité si insignifiante que nos discours se perdent dans le vent. Il faut chercher la puissance, là où elle se trouve. Un groupe d'opposition doit recruter, doit savoir se battre, doit former des alliances. Sinon, messieurs, autant nous dissoudre tout de suite et offrir à la haute ville soit notre coup pour qu'elle y passe la bride, soit notre joue pour qu'elle y mette le fer. Un silence respectueux suivit ce discours. « Je vous propose de passer aux voix, » dit Mevel au bout d'une minute. « Qui se montre favorable à la tentative de contact du monastère par l'intermédiaire des apostats ?» Aumont se chargea de compter les mains. « 23. 23 voix favorables, » reprit Mevel. « Qui se montre défavorable à cette même tentative de contact ?» Aumont compta à nouveau. « 19. 19 voix défavorables. La motion est donc acceptée. » Aumont serra en souriant la main de Stell, qui lui rendit un sourire poli. « Qu'en pensez-vous, Stell ?» demanda Aumont. « Je pense que le plus dur reste à faire. Que voulez-vous dire ?»« Je connais bien Eleanor. Elle n'est pas femme à rendre un service juste parce qu'on le lui demande. » Aumont sourit. « Oui, j'ai cru comprendre qu'elle avait ce qu'on appelle du caractère. »« Du caractère, » songea Stell en s'éclipsant parmi les premiers. « Voilà bien ce dont il se savait dépourvu. » Né en Hauteville par hasard, il se trouvait aujourd'hui par hasard sur le chemin de ses réformateurs. Leur jugement ne lui semblait pas mauvais, et même plutôt meilleur que ceux qu'il avait entendus au forum. Mais Stell savait qu'il était parmi eux un imposteur, un grand indifférent, un grand fataliste, qui avait envie de rentrer chez lui et de ne rien changer à ses habitudes. Il verrait Eleanor demain, et cela le tira quelque peu de son ennui. Après tout, c'était là la motivation presque de tous ses actes, se tirer de son ennui. Et Eleanor était au monde ce qui y parvenait le mieux. Chapitre 11. Le maître Sornard. Le lendemain de son initiation, Joris fut éveillé en sursaut, aux petites heures de la nuit, par une agitation brusque du dortoir. Les frères sombres, dans les lumières tremblotantes des lampes, faisaient leur lit et se préparaient. Joris, malgré les douleurs multiples qui paralysaient ses muscles refroidis, décida de les suivre. On ne lui parla pas, ni ne lui fit de remarques, ni ne lui demanda s'il se portait bien. Cela ne le surprit guère, et il essaya de concentrer son attention sur la compréhension des règles du lieu. Le silence semblait en être une. Certains frères parlaient, mais toujours avec parcimonie, et de manière plus générale, communiquaient fort peu entre eux. Ils rejoignirent bientôt la salle d'exercice, où le maître Sornard les attendait. Les frères sombres s'inclinèrent, non pas à l'unisson, mais chacun à sa manière. Joris s'inclina aussi, et, imitant ses frères, s'assit en tailleur, à quelque distance du maître. La pierre frontale de Sornard émit une lumière brutale, rougeoyante et fascinante, et Joris se sentit aussitôt écrasé par sa puissance, dans un état d'admiration adorante, où il perdit presque conscience de sa personnalité. « Voici l'enseignement !» dit lentement Sornard, de son étrange voix de verbe qui semblait provenir d'une profondeur insondable. « La mémoire de la souffrance est l'arme de la victoire. » Il se tut un instant, comme pour donner à ses paroles un poids physique. « Rassemble en toi le souvenir des rouges déchirures de la chair. Rappelle les brûlures enfouies de la honte, du mépris, de la jalousie. Sens la douleur poignante des coups portés à ta faiblesse. » Le maître regarda un à un les frères sombres, qui, dans leur hypnose, commençaient à suer, à pleurer, à gémir. « Fais taire l'immonde épanchement de ta souffrance et garde-la intacte. » Les gémissements cessèrent et les visages fermés des frères devinrent plus durs. « La mémoire de ta souffrance est un fauve prêt à être lâché. Un fauve blessé, mais qui n'a rien perdu de sa puissance. Un fauve que tu contrôles parfaitement, et qui reste pour l'instant tapis dans l'ombre, les muscles bandés, la gueule asséchée par sa soif de sang. Vois le corps meurtrier de ta souffrance. Vois sa puissance destructrice, et sache qu'elle t'appartient. Sens la frustration de ta souffrance attachée. Écoute battre son désir de se libérer et de déferler. Tu la chevaucheras comme un destrier de guerre. Tu mordras avec ses crocs et déchireras avec ses griffes. Elle et toi ne ferez plus qu'un. » Des mouvements incontrôlés et agressifs fusèrent çà et là. « Tiens-la en laisse !» poursuivit Sornar. Les corps des frères sombres s'immobilisèrent, tandis que leurs faciès prenaient une allure vaguement bestiale, bouche écumante et lèvres retroussées. « Et maintenant, attaque » cria-t-il, et sa pierre frontale s'éteignit brusquement. Joris eut un moment de confusion lorsque le pouvoir du verbe prit fin. Une rage, semblable à une marée, l'avait envahi, une rage sans raison mais d'une formidable puissance. Il n'eut pas le temps de parer le premier coup de la mêlée sanglante qui s'ensuivit. Mais cette douleur, loin de l'affaiblir, parut encore nourrir sa force, et il frappa à son tour. Tout autour de lui, les frères sombres s'en prenaient les uns aux autres, sans distinction, comme des bêtes sauvages, aliénées, luttant pour leur survie. Ils frappaient sans réflexion et sans mesure, avec une puissance inouïe, et recevaient les coups sans presque en ressentir les effets. Cela dura un temps indiscernable, une petite éternité de violence pure. Puis le maître Sornar fit résonner sa voix de verbe. « Cesse le combat !» Les frères sombres, à demi hébétés, s'immobilisèrent tous en quelques secondes. « Ensevelis le souvenir de la souffrance au fond de ta mémoire. Fais disparaître le fauve !» Puis sa pierre frontale s'éteignit, et les frères sombres revinrent à eux, surpris par le spectacle des blessures, tant sur les autres que sur eux-mêmes. Joris ne se souvenait de rien d'autre que d'une ivresse inconnue. « Aujourd'hui, vous vous battrez à 1 contre 4, dit Sornar, à tour de rôle. Le combattant unique aura l'autorisation d'utiliser l'esprit avant le combat afin de reproduire l'exercice que nous venons de voir. Les trois autres ne seront autorisés qu'à l'usage limité de l'esprit. Combat jusqu'à inconscience ou forfait d'une des parties. Pas de coup mortel, jeûne jusqu'au coucher du soleil. » Les frères s'inclinèrent à nouveau, devinant sans doute la fin de l'enseignement. Sornar passa parmi eux, gratifiant certains d'une ombre de sourire ou d'un commentaire sur leur combat. Arrivé au niveau de Joris, il demanda « As-tu retenu la première règle ?»« Oui, maître. L'individu n'est rien face au groupe. Ai-je ?»« Silence !» dit Sornar. « Pour l'année à venir, je t'interdis de prononcer plus de 10 mots par jour, et tu viens déjà d'en prononcer 12. » Joris se mordit la lèvre et s'inclina silencieusement. Sornar continua sa progression parmi ses disciples, puis quitta la salle avec la majesté nerveuse des tyrans d'un autre âge. Joris passa le reste de sa journée dans un état second, qui devait devenir son état de conscience le plus fréquent. Les efforts, la douleur, le jeûne et le silence se combinaient obscurément dans son corps et imprimaient à son esprit une volonté farouche, celle de surmonter. Les frères s'organisèrent pour effectuer les exercices de combat préconisés par le maître. Pas une fois il n'eut besoin d'intervenir, ni même d'apparaître, pour qu'une discipline de fer soit maintenue. Dans ces rares moments de lucidité, Joris comprit que cette journée serait semblable à beaucoup d'autres. Le maître apparaîtrait, s'attacherait à étouffer tout esprit de camaraderie entre les frères, et s'assurerait de leur loyauté individuelle par la puissance de son modèle aussi bien que par la personnalisation de son rapport à chacun. Joris remarqua d'ores et déjà des différences entre les frères. Certains avaient le droit de dormir en chambre individuelle et pouvaient s'adresser au maître sans encourir ses foudres. Certains autres, dont Joris faisait partie, étaient au bas de l'échelle et devraient faire leurs preuves constamment et pendant très longtemps avant d'accéder aux moindres privilèges. Presque tous les combats se soldèrent par une victoire du frère qui se battait seul contre 4. Et malgré la souffrance, Joris éprouva en fin de journée une gratitude sans borne pour Sornar. Car les frères sombres lui étaient attachés, non seulement parce qu'il était puissant, mais surtout parce qu'il leur donnait du pouvoir, jour après jour, comme si sa propre réserve était inépuisable.